Un grand bonjour donc à tous, chaleureuse bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue à vous qui êtes maintenant derrière vos écrans ou bien peut-être derrière votre téléphone. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Et c'est toujours bienfaisant que de se retrouver, de se rencontrer, mais d'être aussi en lien les uns avec les autres, rassemblés autour de celui qui a donné sa vie pour nous, qui a fait de nous ses enfants et qui nous a introduits dans cette grande famille des enfants de Dieu. Avant de louer le Seigneur tous ensemble, je voudrais prier avec vous et demander au Seigneur sa présence et qu'il nous aide à rester fidèles, attachés à lui. Et ce culte va servir justement à nourrir notre foi et à nous donner des éléments qui vont nous permettre de nous accrocher dans ce temps tellement particulier. Seigneur, c'est toujours une joie que d'être à l'écoute de ta parole, que de pouvoir te louer, te servir, te bénir. Nous sommes heureux ce matin d'être là et sûrs aussi ceux et celles qui sont derrière leurs écrans vont pouvoir aussi bénéficier de ce temps de communion au-delà de la technologie, au-delà de ce temps un peu particulier. Merci d'être avec nous, merci de nous encourager aujourd'hui, merci de permettre à ce culte d'être un élément pour fortifier notre foi et notre marche avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Oh, bienvenu ce matin. Vous êtes d'accord avec moi et j'espère derrière l'écran que Dieu est le bienvenu avec vous dans vos cœurs, dans vos vies, mais aussi entre nous dans cette salle et dans ces moments. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on est heureux d'être là ce matin. Et comme le psaume 103 dit au verset 1 à 6, c'est un psaume de David, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et rien que parce qu'on respire, c'est un bienfait de l'Éternel ce matin. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Amen. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert et que je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon coup d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant.
Que ton amour. Seigneur, ta grâce a changé ma vie. Seigneur, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a effacé ma condamnation, mes péchés. Et pour ça, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon cœur, Père éternel, avec mes frères et sœurs ici aussi, Seigneur, derrière leurs écrans, on veut prier ensemble, on veut t'apporter notre louange, notre adoration, Seigneur, te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es tout-puissant, et nous le croyons, Père, amen.
Jamais il est vivant, il est ressuscité. Quel message, quelle espérance pour le chrétien de savoir qu'il a un avenir qui lui est réservé. Un jour, nous ressusciterons aussi avec lui et pour lui, et nous serons avec Jésus-Christ pour toujours. Notre vie ne s'arrête pas seulement ici, là et maintenant, mais nous avons une espérance vivante, comme le dit l'apôtre Pierre. Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits ainsi dans la prière et dans la louange. Quelques informations à vous communiquer avant de laisser la place à une deuxième partie qui est la méditation de la parole de Dieu. D'abord, si vous souhaitez avoir un contact avec nous, c'est toujours possible. Les numéros de téléphone, vous commencez maintenant à les connaître. N'hésitez pas à appeler pour avoir des informations, bien si vous souhaitez un entretien, une visite, un contact, n'hésitez pas. Il y a également la plateforme qui est toujours disponible, vous savez cela aussi maintenant, c'est Zoom. Si vous souhaitez, la plateforme Zoom, c'est pas la plateforme Zoom, ça c'est tout à l'heure, c'est le site internet, voilà, pour vous inscrire pour le mois de septembre pour venir au culte. Et donc, soyez les bienvenus. Merci de vous inscrire si vous souhaitez participer ici en présentiel. Et ce sera une joie vraiment de vous accueillir pour ce culte ici sur place à Lépy. La reprise des cultes pour les enfants ne se fera pas avant le mois d'octobre. Nous attendons de voir un petit peu l'évolution de la situation et souhaitons vraiment offrir les meilleures conditions d'accueil possibles. Il y a quelques événements en extérieur, cette fois-ci, qui sont en cours de préparation pour les enfants, mais on vous tiendra au courant. Les cadeaux, c'est-à-dire nos ados, se retrouvent à partir de dimanche prochain, c'est le 6 septembre. Les cadeaux, dimanche 6 septembre, les groupes de maison, les groupes spécifiques, réunions de prière, etc., reprendront aussi au cours du mois de septembre, évidemment, dans le respect des mesures sanitaires. Les formations aussi, quant à elles, commencent maintenant à reprendre, notamment la formation pour le baptême, le 16 septembre de 19h à 20h15. Donc formation pour baptême le 16 septembre de 19h à 20h15. Vous souhaitez vous faire baptiser, aller plus loin dans votre foi, n'hésitez pas. Vous prenez contact avec le secrétariat de l'EPI, on vous inscrira. Non seulement pour la formation baptême, mais également vous souhaitez avoir un fondement biblique, théologique solide, les fondements de la foi, fondements bibliques. C'est aussi possible puisque nos formations reprennent. Notre assemblée générale pourra enfin se tenir après tout ce temps un peu particulier et retenez peut-être déjà cette date, le dimanche 20 septembre. Dimanche 20 septembre, assemblée générale. Comme d'habitude, ce sera le dimanche matin, dans le prolongement du culte, nous aurons l'assemblée générale ici sur place, mais également une version Zoom, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne souhaitent pas encore se déplacer pourront chez eux aussi suivre l'assemblée générale et pourront aussi depuis chez eux intervenir s'ils ont des questions à poser, des choses à partager, bien ça sera possible. Donc n'hésitez pas. Donc le dimanche 20 septembre. Et puis on termine un peu avec une mauvaise nouvelle puisque la famille Tristano de Heiligenberg, c'est un peu dans la vallée de la Bruche, notamment Caroline Gracius vient de perdre son papa. Avec Anne Burle, notre assistante pastorale, nous ferons l'enterrement demain après-midi à Mutzig. Alors, je ne dis pas cela pour que vous veniez, parce que les places sont limitées, bien sûr, mais pour votre information et aussi pour votre prière. D'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Nous allons prier pour la famille Tristano, prier pour Caroline et toute sa famille. Alors que notre frère se prépare à venir, c'est notre frère Thierry Tsanga. Il fait partie du conseil spirituel de l'Église et il va partager la parole de Dieu avec nous. Ce temps de méditation, je crois que c'est un temps fort, un temps important. Il a un message à cœur de partager avec nous sur la dimension de la persévérance. Thierry, c'est un peu un papa pour nous, c'est un sage. Et nous voulons écouter le conseil de Dieu au travers de lui. Alors on va prier ensemble, se préparer pour cela, mais aussi intégrer dans cette prière ce souci de soutenir la famille Tristano qui vient de perdre un être cher. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie d'être ici pour te louer, te célébrer, te servir, te chanter, écouter aussi ta parole, mais nous sommes aussi de tout cœur avec ceux qui souffrent. Nous prions pour la famille Tristano, pour Caroline, Sabrina, Gino, David, tous les membres de la famille, les enfants, les petits-enfants. Nous prions, Seigneur, pour que tu leur accordes ta consolation et conduis particulièrement ce temps d'enterrement demain après-midi. Merci, Seigneur, de nous aider à entourer toute la famille et de participer à leur consolation. Merci de bénir notre frère Thierry, de bénir la parole de Dieu et de nous permettre ensemble de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.
Alors bonjour, juste un petit rappel, vous avez, j'ai gardé mon masque jusqu'à la fin. Alors si vous pouvez bien garder vos masques, tout est en train de repartir, les statistiques partent à la hausse. Ce serait bien qu'on puisse traverser ces moments compliqués, voilà, avec beaucoup de sagesse. C'est pas facile, hein, je reconnais, je vous assure, ce n'est pas facile. Depuis jeudi, nous on le garde au bureau toute la journée, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout agréable. Mais il s'agit de la santé de tous. D'accord ? Voilà, que le Seigneur nous donne cette force de pouvoir traverser ces moments compliqués avec lui. Amen. Alors, quand Raymond Pierre m'a appelé pour me demander, il y a quelques mois en arrière, si je pouvais intervenir aujourd'hui, il y a un sujet qui s'est imposé à mon esprit, c'est persévérer. J'ai essayé comme ça de me dire qu'est-ce que je peux prendre comme autre sujet. Mais persévérer et rester. Et c'est vrai que quand on écoute, quand on regarde autour de nous ce que nous vivons, la situation, que ce soit la situation sanitaire, elle n'est pas des plus agréables, elle est plutôt compliquée. Que ce soit la situation sociale, la situation économique, nous réalisons que nous vivons beaucoup d'incertitudes. Alors, c'est devant ces incertitudes, comment pouvons-nous faire pour avancer? Pour moi, la chose qui s'impose vraiment, c'est persévérer. Persévérer dans notre marche. Le chemin, il est long. Et comment faire pour résister, pour garder le moral, pour continuer à diffuser la bonne odeur de Christ autour de nous, si nous ne persévérons pas? Alors, que veut dire persévérer? C'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. Alors, pour moi, effectivement, quand on prend cette définition, on réalise quelque part qu'il y a un phénomène temps qui joue. Et le phénomène temps n'est pas toujours à notre avantage. Donc parmi les synonymes de persévérer, il y a s'acharner, s'obstiner, persister, poursuivre. Nous sommes appelés à poursuivre notre chemin jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout qu'on verra les fruits, certainement, devant le Seigneur. Et c'est l'assurance qu'il donne à ses enfants, qu'il donne à ses serviteurs. Un jour, nous le verrons face à face. Ce jour qui sera peut-être redoutable pour certains, mais pour ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, ce sera un jour de joie. Plus de larmes, plus de douleurs, plus de pleurs. Ce sera un jour de joie dans la présence du Seigneur. Il y a une citation, moi, qui m'a marqué. Elle est d'un moraliste chrétien, d'autres disent que c'est un philosophe chrétien, Jean de la Bruyère. Voici ce qu'il nous dit. La plupart des hommes, pour arriver à leur fin, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. Leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs commencements. Faire un effort au début, on peut le faire, même si ce n'est pas facile. On peut tenir un moment de prière intense, 1 heure, 2 heures, c'est possible. 1 semaine, c'est possible. 2 semaines, c'est encore possible. 10 ans, beaucoup de choses se passent entre. 10 ans, certains ont tenu 25 ans, d'autres plus encore. Mais c'est tenir. Et nous allons réaliser que tout cela n'est vraiment pas évident. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque quelqu'un est dans la douleur, dans l'épreuve, c'est facile de lui dire « c'est bon, continue ». Mais dans le temps, est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de tenir? Est-ce que nous sommes capables de tenir? J'aborderai 4 thèmes sur la persévérance. Il y a la prière, il y a l'enseignement que nous avons reçu, il y a l'attente de la promesse et il y a la foi. Pour la prière, dans Luc 18, 1 à 8, c'est le Seigneur qui parle, c'est une parabole. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et crie à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. » Le Seigneur d'emblée nous dit, en fait, cette parabole, elle est là pour ne pas nous décourager. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que, selon les circonstances, les situations, nous pouvons être découragés. Et en fait, j'ai cherché un peu comment redéfinir le découragement. Ce qui est dit, c'est que c'est une perte passagère d'énergie devant un but difficile à atteindre. Perte de toute confiance, d'espérance, d'illusion. Si on reprend l'histoire de cette parabole, il y a une situation qui est compliquée, d'emblée compliquée. Nous avons affaire à un homme qui est en situation d'autorité, qui n'a d'égard pour personne, qui ne craint pas Dieu. Alors je me suis dit, si j'étais là dans une situation pareille, je connais un frère ou une sœur qui est en difficulté, qui est face à une telle personne. Quel conseil lui donnerais-je? Nous avons en face de nous quelqu'un qui est incapable de rendre une justice honnête, qui n'a peur de personne, qui n'a aucune crainte de Dieu. D'emblée, la situation, elle est perdue. Est-ce que tu vas dire à la personne, « Ma sœur, vas-y, allez, vas-y, tu gagneras. Mon frère, tu peux gagner, vas-y. » Alors qu'au fond de toi, tu sais à qui tu as affaire. Mais le Seigneur nous dit non. Il y a une différence fondamentale. Nous avons affaire à un homme. Nos prières s'adressent à Dieu. Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est amour. Quelle que soit notre situation, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons en face de nous Dieu qui nous est favorable, qui nous sera toujours favorable parce qu'il nous aime. La différence fondamentale, c'est que cette femme-là, elle est dans une fragilité. Aujourd'hui, pour nous, cela n'est pas bien grave, mais c'est une femme. Elle n'a plus de défense. Son mari n'est pas là. Il est décédé. Qui va défendre sa cause? Mais elle a une arme redoutable, c'est sa parole. Elle va tourner en boucle jusqu'à ce qu'elle ait une réponse. En informatique, on va vous parler d'une boucle. Tant que vous n'avez pas mis un point d'arrêt, la boucle continue. Là où je travaille, on a une fois par mois des programmes qui tournent. Il y a 60 millions de lignes. Tant que les 60 millions ne sont pas passés, le traitement continue. Et le Seigneur nous dit, tant que tu n'as pas reçu ta réponse, boucle. Ne laisse pas Dieu tranquille. Boucle, boucle, sans cesse. Malgré cette situation compliquée, la femme, elle a eu gain de cause, le Seigneur en train de nous dire, quelle que soit ta situation, reprends courage, boucle. Quelle que soit ta situation, Dieu est favorable, Dieu t'est favorable, il n'est pas contre toi. Vas-y, continue. Qu'est-ce qui peut nous entraîner dans le découragement? C'est de se dire, oui Seigneur, cette situation, oui, humainement, voilà, c'est fini, c'est une cause perdue. À quoi cela sert-il de prier? Nous baissons les bras. Oui, il y a des situations compliquées. C'est alors que nous avons besoin des uns des autres pour nous soutenir dans la prière. C'est alors que nous avons besoin de l'Église pour nous accompagner dans ces situations compliquées, pour que nous ne baissions pas les bras, pour que nous puissions voir la victoire de Dieu se manifester chaque jour au milieu de nous. Je vous assure, je rêve des témoignages, des gens qui viennent témoigner. J'ai été guéri, j'ai été restauré, j'ai trouvé du travail. Aujourd'hui, Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Sinon, nous sommes là pour rien. Des vies restaurées, des vies guéries, des couples qui retrouvent la force dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, tant que nous sommes là, tant que nous respirons, tout est possible parce que nous avons affaire au Dieu de l'impossible. Tout reste possible. Dieu ne répondra pas forcément comme nous pensons, mais Dieu répondra toujours de manière juste et parfaite. Je vais vous apporter un témoignage. Au mois de décembre, je devais aller au Cameroun pour des raisons administratives et je me suis battu pour ne pas y aller. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie d'y aller pour des raisons professionnelles, voilà, Et on m'avait fixé une date limite, le 15 décembre. Je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai prié, je vous assure, j'ai prié. Et non, je devais y aller quand même. J'ai fait tout ce que je pouvais. Merci. Excusez-moi. Quand je me suis rendu compte que je devais y aller, je me suis dit, ok Seigneur, voilà, on est en pleine période de grève, trouver un billet d'avion, c'était compliqué. Je vais partir, les aéroports les plus proches de Strasbourg, Bâle, Genève, Francfort, il me fallait faire pour un voyage de 6 heures, on me proposait 16 heures, 24 heures de vol, je dis, non, c'est pas possible. Alors, Seigneur, je vais aller au Cameroun, pour que ce soit efficace, il faut que j'aille dans un temps très court, que les gens ne sachent pas que j'arrive, sinon mon programme il est par terre. Finalement, j'ai trouvé un billet, j'ai pu arriver au Cameroun. Donc je devais y aller avec ma sœur, on s'est retrouvés à Paris. Et je dis à ma sœur, écoute, personne ne doit savoir qu'on arrive. J'ai essayé de trouver un hôtel en plein centre-ville, juste pour qu'on aille faire ce qu'on doit faire et repartir sans qu'on sache qu'on était là. Mon visa, mon passeport, donc étant à Strasbourg, il fallait aller à l'ambassade à Paris. Mon visa, je l'ai eu à l'aéroport à Roissy, 2 heures avant le vol. J'ai transpiré. J'arrive au Cameroun, pendant qu'on était là, ma sœur me dit, écoute, je viens d'avoir un appel, demain, il y a une fête, on nous attend. J'ai dit, Seigneur, c'est... Seigneur, attends, Seigneur. Tout tourne, mais dans tout ce que je ne veux pas, je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on est arrivé, et le quartier où on a trouvé un hôtel, c'était à 200 mètres où habitait ma sœur. Oh, Seigneur, voilà, tout ce que je ne voulais pas. Le lendemain, on a fait une fête, il y avait une grande fête. La famille était réunie, on a pu... prendre un temps à la fin, on a pu partager nos expériences, on a pu partager ma foi. Avec mon frère aîné, on est resté comme ça pendant... On a eu juste un laps de temps, une demi-heure, on a pu partager, échanger. J'ai témoigné de ce que Dieu avait fait, voilà de ce que Dieu fait. Et puis on était tellement contents, c'est là qu'on va se revoir. J'ai remercié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, voilà, finalement, oui, c'était pas mal. Oui, bon, t'as pas répondu comme je voulais. 2 semaines après, mon neveu qui m'appelle, papa est décédé. J'ai dit, Seigneur, mon frère que j'avais vu 2 semaines avant est décédé. À ce moment, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Seigneur, ce n'est pas juste. J'ai bataillé, je n'étais pas content. Et au fond de moi, je reçois juste une pensée. Et pourtant, tu ne voulais pas y aller. Dieu fait toutes choses parfaites. J'ai pu revoir mon frère. J'ai pu témoigner. Nous avons pu échanger. Oui. Lorsque tu pries, demande au Seigneur, mais surtout, dis-toi que ce qu'il va faire, c'est ce qu'il y a de juste, ce qu'il y a de parfait. C'est ce qu'il y a de bien pour toi. On peut être déçu, mais ce que Dieu fait, notre Dieu est bon. Il est bon, il est fidèle en tout temps. Il est amour. Il ne peut pas nous piéger. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Ta situation est compliquée, mais Dieu est là. Il est là. Toi, persévère, persévère. Et Dieu, il fera ce qu'il doit faire. Il sait mieux que nous ce qu'il doit faire. Et je me suis dit, il y a souvent des situations où lorsqu'on nous annonce une nouvelle, nous ne nous battons même pas, nous encaissons le coup. La situation que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie, est-ce que nous chrétiens, est-ce que nous, en tant qu'Église, nous croyons seulement qu'en priant, les choses peuvent changer? Non. Excusez-moi, même les experts entre eux se contredisent. Nos gouvernements sont un peu perdus, quel que soit le gouvernement. En début d'année, on se souhaitait une joyeuse année 2020. Si quelqu'un nous avait dit que le monde allait s'arrêter au mois de mars, on allait dire, écoute, arrête mon frère, ma soeur, écoute, tu as des problèmes, je vais prier pour toi. Mais ce qui s'est passé, mais c'est inimaginable. Nos dirigeants sont dépassés et si nous, nous ne prions pas, si nous estimons que oui, c'est un état de fait, c'est une pandémie, on ne peut rien faire. Waouh! Oui, depuis hier à Strasbourg, on met le masque. Nous, au travail, on nous met depuis jeudi. Et puis on se disait, on va descendre, faire nos pauses pour pouvoir enlever les masques. C'est fini. J'ai pris simplement dans Jérémie. Dans Jérémie 29:7, recherchez le bien de la ville alors que le peuple d'Israël est en déportation. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Écoutez bien, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Notre bonheur, oui, dépend de là où nous sommes, de Strasbourg. Si nous ne prions pas, nous n'intercédons pas pour Strasbourg, si nous n'intercédons pas pour la France, pour le monde entier, ok, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Mais une chose, si nous intercédons, frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir Dieu à l'œuvre? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que vous êtes convaincus que les choses peuvent changer. Est-ce que nous voulons voir Dieu à l'œuvre? Non? Bon, attendez. Voilà. Michel, tu prends la suite. Moi, je... Comment pouvons-nous voir Dieu à l'œuvre si nous-mêmes, nous ne prions pas? Dieu veut agir. Mais par la prière, nous pouvons le pousser à lever sa droite pour agir, pour nous sortir de cette situation. Combien de temps ça va durer? Pour nous, c'est un défi. C'est un défi auquel nous devons faire face. Le Seigneur a dit, oui, notre Dieu va nous répondre. Mais prions. Combien, je ne sais pas, qu'est-ce que... Combien de situations compliquées allons-nous laisser se développer encore autour de nous avant qu'on ne prenne conscience que oui, il faut qu'on se lève pour prier, il faut qu'on se lève pour intercéder. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une promesse. Si nous, chrétiens, si nous, enfants de Dieu, nous ne nous levons pas, qui va se lever pour cette situation? J'ai failli dire finalement à quoi ça nous sert d'avoir notre Dieu de notre côté si on ne se lève pas. À quoi cela nous sert-il? Juste de dire je suis chrétien? Juste de dire voilà, la louange était belle? Alors que, je ne sais pas, il y a deux mois, je me dis peut-être que le Seigneur trépigne des pieds s'il était un homme. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Frères et sœurs, nous avons un défi, alors relevons-le. Relevons-le pour la gloire de Dieu. Relevons-le pour le salut du plus grand nombre. Relevons-le pour le bien de notre pays, pour le bien de l'humanité. Relevons-le. C'est un défi pour chaque chrétien. C'est un défi pour nous, Église de Christ, pour que, oui, le monde puisse voir que Jésus est vivant. Que le monde puisse reconnaître dans tout ce qu'on entend. Les gens, oui, ils font avec ce qu'ils ont. D'accord? Ils font avec leur connaissance, ce qui est normal. Alors faisons nous aussi avec ce que nous avons. Nous avons Jésus de notre côté. Nous avons celui qui a donné sa vie. Nous avons celui qui a vaincu la mort. On a chanté tout à l'heure. Il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Alors qu'est-ce que cette pandémie pour lui? Qu'est-ce que cette pandémie? C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Le deuxième point, c'est que faisons-nous de l'enseignement que nous recevons? Dans Daniel 1, 8 à 9, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. On est dans une situation où Daniel a été déporté, il est en esclavage. Et là, il se retrouve dans la cour du roi où il reçoit avec ses amis, ses trois autres amis, un enseignement sur la culture chaldéenne. Ils vont être formatés selon la culture du pays. Ce qui est merveilleux, c'est qu'avant d'arriver là, Daniel avait été enseigné. Daniel a été enseigné, et voilà qu'il est en situation où ce qu'il a pu recevoir l'aide à résister. Il sait que ce qu'il faut faire. Oui, on lui propose quelque chose. C'est compliqué. Ils sont esclaves. Finalement, ils sont esclaves. Mais lui, Daniel, il sait que ce qu'on m'a appris de la loi de Moïse, je ne dois pas le faire. Alors, il ose ouvrir la bouche. Il ose affirmer une position. Ce qui est merveilleux, dans sa démarche, Dieu le soutient. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Le monde dans lequel nous sommes, si nous prenons la Bible et nous regardons ce que le monde offre, ce sont des choses qui ne vont pas ensemble. Alors comment réagissons-nous? Avec cette période de Covid, il y a tellement de choses qui sont sorties, qu'on a entendues, aller sur le net, voilà. Il y a des choses, j'ai pu lire certaines choses, je me dis, waouh, il y a certains qui ont certainement, je ne sais pas, des révélations assez spéciales de Dieu pour affirmer des choses, waouh. Mon frère, ma sœur, sur quoi fondes-tu ta vie? Où sont tes racines? Vous savez, on peut recevoir des enseignements, on peut s'asseoir là, nuit et jour, écouter. Mais la parole nous dit qu'il faut qu'on puisse mettre en pratique aussi. Si nous ne mettons pas, déjà, si nous n'écoutons pas, il y a un problème. Mais si nous écoutons sans mettre en pratique, il y a aussi un autre problème. Mais cette parole, elle devient agissante lorsqu'on essaie de la mettre en pratique. Si Daniel n'avait pas fait cette démarche, comment aurait-il su que le Seigneur était avec lui? Chaque jour, nous devons faire des choix. Mais sur quoi basons-nous nos choix? Sur ce qu'on a pu entendre, recevoir de la parole de Dieu, ou sur ce que le monde pense? Vous savez, le monde a ses experts. Hein. Il y a des experts. Rien de tel que les experts en communication. Voilà, j'aime bien la communication. Mais quand on veut vous convaincre, ça devient très, très facile. Mais si vous n'avez pas des racines profondes, alors vous partez avec. Vous vous mettez à croire des choses qui ne valent même pas la peine de croire. Des choses qu'il ne faut même pas entendre, des choses qu'il ne faut même pas regarder. Lorsque les choses se compliquent, c'est alors que nous devons revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. Cette parole qui est une lumière sur notre chemin. Cette parole qui est mieux qu'un GPS. Le GPS, de temps à autre, il peut vous amener loin de votre destination, mais la parole de Dieu nous amènera toujours vers Christ. Cette parole, malgré les obstacles, elle nous conduira toujours de manière sûre et certaine sur la vérité de Dieu, la seule vérité. Oui. Mon frère, ma sœur, sur quoi fondes-tu ta vie? Sur le rocher des siècles ou sur ta propre sagesse? Sur ce que le monde te dit? C'est un choix que nous sommes appelés à faire tous les jours. Souvenons-nous que pour Daniel, c'était compliqué. Là où il est esclave. Et sa requête va à l'encontre d'une décision royale. Il faut bien les nourrir, eux. Oui, dans la pensée, certainement, c'était en leur donnant ces mains-là, en leur donnant ce vin-là, ils allaient être bien, ils seraient en forme. Mais par rapport à l'enseignement qu'il a reçu, il allait se souiller. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quel est notre défi pour ne pas souiller le temple que nous sommes? Oui. Les choix que nous faisons, ce que nous entendons, ce que nous regardons peut nous souiller. Et la Bible nous demande, justement, de rester pur. De rester pur. De pouvoir dégager la bonne odeur de Christ pour qu'il n'y ait pas d'odeur mélangée. Qu'il y ait seulement la bonne odeur de Jésus qu'on ressent lorsqu'on nous voit vivre, lorsqu'on nous entend. C'est un défi. Ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on ose s'engager là, lorsqu'on ose faire confiance à Dieu, Dieu est toujours présent. Lui, il fera toujours sa part. Il la fera de manière certaine. Parce qu'il est Dieu. Il fera sa part. Justement, quand on Romains 12, 2 nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que tout ce que nous pouvons recevoir ici comme enseignement puisse nous aider à avancer, puisse nous aider à aller jusqu'au bout, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Dieu, dans sa fidélité, va honorer notre démarche. Dieu nous aidera à tenir ferme. Il sait mieux que nous, quels sont les enjeux auxquels nous faisons face. Il sait mieux que nous tout ce qui nous attend et il nous arme en conséquence. Alors c'est à nous aussi, oui, de faire cet effort-là, de dire « Seigneur, oui, c'est compliqué, Seigneur, tu connais ma vie, mais Seigneur, je veux te faire confiance. » Je veux te faire confiance et je veux m'engager. Cela peut me coûter, ça peut coûter très cher parfois, mais Dieu, il sera toujours au rendez-vous. Et c'est ainsi que, oui, nous pouvons aussi nous appuyer sur les promesses. Dans la Bible, il y a tellement de promesses. Il y a des promesses. Vous savez, quand vous prenez le temps de chercher les promesses que Dieu peut faire, moi je dirais, c'est simplement si on prenait un tout petit peu au sérieux les promesses de Dieu, on pourrait peut-être s'envoler. Tellement elles sont nombreuses. Se dire, voilà, j'ai tel problème, alors les promesses de Dieu sont là. Et je me mets au-dessus des problèmes que je dois affronter, parce que Dieu a promis, Dieu m'a promis d'être là. Dieu a promis tant de choses. C'est ainsi que nous abordons le troisième point, l'attente de la promesse. Excusez-moi. Il fait moins chaud dehors, mais sur l'estrade, bon. Dans Hébreux 6, versets 13 à 15, nous lisons, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Waouh. Vous savez, lorsqu'on lit de cette manière-là, on se dit, waouh, c'est super, génial, Abraham, il a tenu bon jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, il a tenu bon jusqu'au bout. Est-ce que vous savez combien de temps s'est passé entre la première fois où Dieu lui annonce qu'il va avoir une multitude et la naissance d'Isaac? Vous savez combien de fois? Combien d'années? 25 ans. 25 ans d'attente. 25 ans, il n'avait pas 20 ans. Non, non. Il n'avait pas 20 ans. parfois on se dit, mais Sarah, sa femme, oh, ce n'était pas une femme de foi. Alors, sa situation. Sarah, elle n'a jamais eu d'enfant, stérile. Elle arrive, la ménopause est passée par là, elle ne peut plus, biologiquement, c'est fini, elle ne peut plus avoir d'enfant, c'est fini, c'est réglé. Mettez-vous un peu à sa place. C'est fini. Elle a été stérile toute sa vie. Et là, maintenant, même si elle avait enfanté à l'époque, biologiquement, elle ne peut plus enfanter. C'est fini. Abraham, oui. Mais elle, non. Et Sarah, tu vas avoir un enfant. Mais tu vois sa place aussi. Non. Tu vas avoir un enfant. Mais au moment où il fallait, où je pouvais avoir un enfant, je n'ai pas pu. Et là, c'est fini, je ne peux pas, c'est fini là. Même Abraham, quand vous lisez toute l'histoire, même Abraham, il a eu ces moments de doute, ces moments de faiblesse. Il rappelle à Dieu, mais je vais partir, je n'aurai pas... Oui, attendez, ce n'est pas un enfant. Ok. On va dire, un enfant, ok. Mais Dieu lui dit, là, les étoiles du ciel, tu ne peux pas les compter. Là, c'est ta descendance. Le sable de la mer, moi, chaque fois que je passe à la mer, je pense à Abraham, je lui dis, waouh. Oui, c'est pas un. Ta descendance, le sable de la mer. Et vous, vous dites que oui, d'accord, amen, alléluia. Ok, si au moins bah, le lendemain, Sarah, bon, c'est Dieu, hein, il avait fait, le lendemain, Sarah, un enfant, deux jours après, deux enfants, et hop là, 100 enfants, et puis, ah oui, c'est possible. Non, 25 ans. Et enfin, l'enfant de la promesse qui arrive. Si Dieu faisait ce que nous pouvons faire, alors qu'est-ce qui ferait qu'on voit qu'il est Dieu? Excusez-moi. Si Dieu faisait exactement nous ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qui va faire la différence? Mais justement, il va se servir de ces situations complètement bloquées pour nous montrer qu'il est Dieu. Les situations désespérées, où tu te dis c'est fini, il n'y a plus rien, alors il vient, il t'apporte cette promesse. Ou toi-même, tu te dis, est-ce que j'ai bien entendu? Oui. Quand tu lis la parole, lorsque le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que chaque jour tu le réalises seulement que dans ce que je suis en train de faire, dans l'épreuve peut-être par laquelle je passe, Jésus est à mes côtés? C'est souvent là notre problème. Il y a des moments où on est là, on dit, Seigneur, oui, tu peux te dire, dans ce que tu vis là aujourd'hui, le Seigneur m'a oublié. Alors moi, je te dis, non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Souviens-toi de la croix. Dans ce que tu es en train de vivre, souviens-toi de la croix. Souviens-toi de ce que Jésus a enduré de Gethsémané à Golgotha. Souviens-toi. Souviens-toi qu'il a été humilié. Souviens-toi qu'à... Oui, à Gethsémané, il a eu une angoisse intense. Souviens-toi qu'il a été frappé, maltraité, meurtri pour toi. Il ne peut pas t'oublier. C'est pour toi, il ne peut pas t'oublier. Il a enduré tout ça par amour pour toi. Et alors, comment veux-tu, alors que tu es dans la galère, alors que tu te dis, oui, Seigneur, non, il ne peut pas t'avoir oublié. C'est impossible. Il t'aime trop. Il t'aime trop. Il a donné sa vie pour qu'un jour comme celui-ci, que tu puisses reprendre courage Parce qu'il a tout fait, il a tout accompli, il a tout donné. Oui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est le facteur temps qui est souvent, je dirais, notre adversaire. Mais lève les yeux un instant. Notre problème, c'est que lorsque nous quittons des yeux le Seigneur et que nous regardons notre problème, alors ce problème, il commence à enfler. Ce qui était une colline devient une montagne. Ce qui ressemblait au mont Saint-Odile devient l'Everest. Oui. Lorsque tu quittes le Seigneur des yeux, ton problème, il te prend la tête. J'en parle parce que je sais ce que c'est. Je le fais aussi jusqu'à aujourd'hui. Mais à la fin, lorsque je vois, je me dis, Seigneur, aide-moi la seule façon. Mais reviens au Seigneur. Et quand je vois comment le Seigneur règle, je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Comment puis-je encore aujourd'hui réagir de la sorte? Comment puis-je réagir de la sorte alors que par le passé, tu m'as déjà montré que tu es là, tu m'as déjà montré que tu agis et je continue. Oui, il a payé le prix. Il a payé le prix pour qu'en son nom, nous soyons guéris. Il a payé le prix pour qu'en son nom, nous soyons délivrés. Il a payé le prix pour qu'en son nom, il y ait la victoire. Il a payé le prix pour que lorsque son Église se réunit, qu'on voit des prodiges et des miracles. Il a payé ce prix. Il a payé le prix pour que ceux qui sont à l'extérieur, qui se perdent encore, puissent être sauvés. Il a payé le prix. Les promesses de Dieu, elles sont pour nous. Elles sont pour aujourd'hui. Dans le ciel, on n'aura plus besoin de ces promesses-là. Est-ce que vous le réalisez seulement? Au ciel, les promesses, oui, c'est fini là, c'est réglé. Mais si nous ne nous saisissons pas de ces promesses, si nous ne nous rappelons pas au Seigneur ses promesses, et si nous ne nous accrochons pas à ce qu'il nous donne, à ce qu'il nous dit, oui, alors on aura du mal. On aura du mal. Moi, c'est l'exemple de Marie qui repassait en son cœur ce que l'ange lui avait dit concernant son enfant. Elle repassait en son cœur et repasse dans ton cœur la fidélité de Dieu, repasse dans ton cœur l'amour de Dieu, repasse dans ton cœur la bonté de Dieu, repasse dans ton cœur ce que Dieu t'a dit. Et Dieu, moi, ce que j'aime, la Bible nous rappelle qu'il n'est pas homme pour mentir. Il n'est pas homme pour se renier. Il t'a dit... Dieu ne parle pas à la légère. Nous, parfois, nous parlons à la légère. J'aime une expression qui dit ceci, Dieu n'est pas bavard. Lorsqu'il dit, il sait qu'il va le faire. Alors, le Seigneur t'a donné quelque chose, accroche-toi. Contre vents et marées, accroche-toi. Il y a très peu d'événements qui se sont produits instantanément. Dieu a parlé, ça se fait tout de suite. Il y en a très peu. Mais c'est à nous aussi d'être patients. Dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. C'est à nous d'être patients, de regarder constamment au Seigneur et de nous attendre à lui. C'est de persévérer. Persévérons, frères et sœurs. Persévérons, persévérons. Et nous verrons comme ça, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il va agir. Et ce que j'aime parfois, alors que le découragement commence à te gagner, Dieu te donne un petit signe d'encouragement pour que tu puisses tenir bon, pour que tu puisses aller jusqu'au bout, pour que tu puisses venir proclamer au milieu de l'Assemblée des Saints que Dieu agit encore en 2020. Il agit encore de manière certaine. Et enfin, le dernier point, c'est notre foi. Dans Job, chapitre 19, versets 23 à 27, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. » Waouh, c'est accompli, non? Ça a été écrit dans le livre des livres. Ces paroles sont là. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, amen, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Alléluia. Wow. Cette proclamation, elle est simplement inimaginable dans la situation de Job. C'est une proclamation, moi. Chaque fois, j'essaie de la repasser en moi. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Pour nous, c'est une réalité. Nous, Job, à ce moment, Jésus n'était pas encore ressuscité. Pour nous, c'est une réalité. Mon Rédempteur, ton Rédempteur est vivant. Il est vivant, Jésus est vivant. Ah, s'il y avait dans la communauté africaine, j'aurais commencé. Il est vivant. Oui, il est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Le juste juge est vivant. Job. Job a tout perdu. Famille. Tous ses biens, il a tout perdu, même sa santé. Même sa santé. Et ceux qui pouvaient l'encourager, finalement, l'enfoncent. Parce que c'est une situation complètement inhumaine. Je me suis fait juste une petite remarque. Satan ne joue pas. Il ne joue pas. Donc, n'allons pas jouer avec lui. Il ne joue pas. Il ne fait pas de cadeaux. Surtout, ceux qui appartiennent à Dieu, il va essayer de te faire lâcher prise. Ce qu'il a fait à Job, c'est inhumain. Vous savez, quand je relisais le texte, mais psychologiquement, je me dis, comment est-ce qu'il a pu tenir? Pendant que le premier annonce a été en train d'annoncer la mauvaise nouvelle. Le deuxième était déjà là. Le deuxième est en train d'annoncer. Le troisième est là. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps de rebondir intérieurement. Il ne fait que sombrer, descendre, 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 descendre. Mais la seule chose qu'il dit, Dieu a donné, il a repris. Waouh ! Dieu a donné, il a repris. C'est juste inimaginable. Oui, mais notre foi, c'est de croire que celui qui est aux manœuvres, c'est l'Éternel seul. Ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce qui se passe, ça me dépasse, je ne comprends rien. Cette pandémie, moi je ne comprends rien, j'ai essayé de comprendre, j'ai abandonné. Mais la seule chose que maintenant je veux proclamer et que je proclame, c'est que Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. C'est mon Père céleste. C'est le Dieu d'amour qui tient tout entre ses mains. Mon Rédempteur est vivant. Alors son Église restera debout. Il a promis que les portes de l'enfer ne prendront point sur son Église. Alors, quoi qu'il se passe là, mon Rédempteur est vivant. Quelle est notre foi? En qui croyons-nous? Qu'est-ce qui fait ma force en tant que chrétien? Ce n'est pas moi. Je vous assure, je ne crois pas aux super-chrétiens. Je ne crois pas. Pas du tout. Alors, excusez-moi, peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a. Mais quand je relis dans la Bible, le seul qui n'a pas chuté, c'est Jésus. Le seul. Moïse, waouh, quel serviteur de l'Éternel. Mais Moïse, il avait ses problèmes à régler. À partir de là, ça me ramène à ma petitesse, en tant qu'être humain, que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas tenir. Alors je me dis, Seigneur, si tu n'es pas là, je ne pourrai pas tenir. Seigneur, si tu me lâches un instant, je ne suis plus là. Si tu lâches ton église un instant, nous ne sommes plus rien. Mais sa promesse me rappelle qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa promesse, elle est là pour chacun d'entre nous, pour toi, pour ton couple, pour ta famille. Saisis-toi de la promesse de Dieu. Mets ta foi en action. Les choses ne sont pas comme tu aimerais qu'elles soient. Job, est-ce que vous pensez un seul instant que Job aurait souhaité vivre tout cela? Je ne le pense pas. Néanmoins, Job nous donne une leçon. Oui, j'ai perdu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus est vivant. Je sais qu'à la croix, Jésus a vaincu le monde. Il peut avoir des dégâts, mais est-ce que nous sommes capables de confesser que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que nous sommes capables de le confesser? Est-ce que nous sommes capables d'avancer, oui, dans les prochains jours, dans les prochaines années, avec cette confiance totale dans le Seigneur? Si c'est le cas, alors soyons en paix. Si c'est le cas, Dieu sera toujours au rendez-vous et ne nous fera jamais défaut. Jamais défaut, frères et sœurs. Prions. Enracinons-nous dans les enseignements que nous recevons. Retenons fermement les promesses que Dieu nous a faites. Elles sont certaines, elles s'accompliront parce que c'est Dieu qui a fait ces promesses. Oui. Et notre foi, grandissons dans notre foi. Le psaume 11 nous dit, pose simplement une question, quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Job, lui, pour sa part, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, non ceux d'un autre. Quand les fondements sont ébranlés, que feras-tu? Je vais reformuler ma question. Alors que nous passons des temps compliqués, complexes, mon frère, ma sœur, que fais-tu? Que fais-tu? Oui. Confesse la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la victoire de Christ. Oui. En conclusion, dans Hébreux 12, versets 1 à 3, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Jésus fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Voilà une feuille de route pour nous. J'aimerais simplement qu'on prenne un petit temps, qu'on prie ensemble. Nous sommes à la veille de la rentrée, de la reprise des classes. Pour certains, ça va faire 5 mois qu'ils n'ont pas été physiquement, comme on dit maintenant, présentiel, à l'école. Oui, que le Seigneur aide, que ce soit, je vais dire, tous les corps de métier, en particulier nos frères et sœurs qui sont dans l'enseignement, Prions aussi pour nos jeunes, pour nos enfants. Que le Seigneur puisse les aider dans cette période assez trouble. Que le Saint-Esprit puisse apporter le conseil aux uns aux autres, à nos frères et sœurs enseignants, la sagesse pour gérer ces situations, le mot qu'il faut, la parole qu'il faut pour apporter la paix, la joie dans les cœurs. Et on va aussi prier voilà, pour l'Église tout entière. Hein. Voilà, prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu as toujours été au rendez-vous et tu l'es encore aujourd'hui Seigneur. Et vraiment nous voulons garder les yeux fixés sur toi, toi qui es la source de la foi, tu as qui es le rémunérateur de la foi. Alors Père, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les différentes situations au milieu de nous. Certains ont peut-être lâché prise. Seigneur, nous prions pour eux, pour que tu leur redonnes la force nécessaire, pour que tu leur redonnes, Seigneur, oui, ce souffle nouveau dont ils ont besoin, afin qu'ils reviennent complètement à toi. Nous te prions, Seigneur, pour les familles, pour les couples. Seigneur, cette période de confinement a été, oui, une épreuve pour tester nos familles. Mais Seigneur, là où il y a eu des éclats, là où il y a eu des perturbations, là où il y a eu oui, des cassures, Père, nous te prions, toi qui es le Dieu d'amour, que ton amour puisse tout à nouveau couler dans les cœurs des uns et des autres, dans les cœurs des pères et des mères, dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des familles, que ton amour puisse couler. Ô Saint-Esprit, que toi qui es esprit de force, d'amour et de sagesse, que tu puisses intervenir pour que là où il n'y a plus d'espoir, oui, qu'on puisse voir la main de Jésus, qu'on puisse voir la droite de Dieu qui restaure, qui guérit, qui donne cette force d'aller de l'avant, cette force d'aimer tout à nouveau, cet amour qui est au-dessus de ce que nous-mêmes nous pouvons penser ou imaginer. Père, je te prie pour notre communauté, Seigneur mon Dieu. Pose ta main, garde-nous, préserve-nous. Seigneur, ce n'est pas nous, c'est toi le bon berger. Seigneur, nous sommes tes brebis, Seigneur, et tu as promis de veiller. Alors Seigneur, merci que cette parole devienne forte pour chacune de tes brebis. Seigneur, pose ta main. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse pour ceux qui conduisent l'Église. Accorde-nous, Seigneur, ta sagesse. Cette sagesse, Seigneur, qui nous dépasse. Tu as bien dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je le reconnais. Nous le reconnaissons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, viens à notre secours. Donne-nous, Seigneur, tes instructions. Pour que nous puissions avancer là où toi tu veux, là où toi tu veux conduire cette Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ta main sur nos frères et sœurs, oui, qui sont dans le domaine du social, nos frères et sœurs qui sont enseignants, qui sont en contact avec les enfants. Seigneur, que tu puisses les renouveler déjà eux-mêmes en toi. Seigneur, que partout ils seront, qu'eux-mêmes soient rassurés de ta présence. Que partout ils seront, Seigneur mon Dieu, que Seigneur, tu puisses leur rappeler ta présence. Que tu es avec eux, que tu es avec eux. Et que ce qu'ils doivent faire passer, qu'ils puissent le faire passer avec justesse, avec amour. Que là où ils sont, Seigneur, que la bonne odeur de Christ puisse être dégagée et se sentir. Que les enfants, Seigneur, se sentent sécurisés. Que les jeunes, les ados, Seigneur, réalisent que oui, la personne qui est en face de moi, ce qu'elle est en train de dire, c'est autre chose. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu de grâce. Pose ta main sur nos enfants, Seigneur. Nous te prions en cette période trouble. Seigneur, nous disons nos enfants, en fait, ils sont à toi. Tu n'as fait que faire de nous tes représentants. Alors, Seigneur, conduis-les. Conduis-les, Seigneur, afin qu'eux-mêmes puissent faire cette démarche, ceux qui n'ont pas encore fait démarche avec toi, qu'ils puissent la faire. Et Seigneur aussi, que ce qu'ils ont entendu, qu'ils puissent réaliser que c'est la vérité. Qu'ils puissent réaliser qu'au-delà des périodes troubles, il y a un Dieu en qui ils peuvent compter. Il y a ce Dieu vivant et vrai qui est là. Que lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur aussi. Nous te prions pour les situations compliquées, pour l'avenir. Seigneur, pour ce pays, guéris notre pays. Guéris notre pays, Seigneur. Guéris notre pays. Renouvelle en nous, Seigneur, cette force pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens nous en aide. La situation est compliquée, mais toi, tu es la solution, Jésus. Pose ta main. Ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont peut-être en train de le perdre, ceux qui ont des problèmes de santé, Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Agis, Seigneur. Agis pour l'honneur de ton nom. Agis pour la gloire de ton nom. Agis pour le bien de ton Église, Jésus. Nous t'aimons. Amen.
quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien.
Notre culte touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci au groupe de louanges. Merci à Thierry pour ce bon message. Et on espère vraiment de tout cœur que ce message, comme les autres cultes, contribue à nourrir votre foi et à vous encourager à persévérer. Aucune vie de victoire sans persévérance. On aimerait pouvoir vous dire le français facile hein, pour les élèves qui entrent en classe cette semaine, l'anglais facile, les maths faciles, mais non, vous le savez très bien, il y a cette dimension de persévérance. Donc, on espère vraiment de tout cœur que ce culte aura contribué à vous encourager à persévérer dans la prière, dans l'enseignement, vous appuyer sur les promesses et aussi dans votre foi. Merci beaucoup Thierry. On aime beaucoup travailler en équipe à l'EPI. Et Thierry est c'est le vieux au sens noble du terme africain. Le vieux avec sa sagesse, avec ses conseils et qui est un encourageur permanent à regarder vers Christ, à persévérer. Et c'est un encouragement pour l'ensemble des équipiers. Merci beaucoup Thierry, merci à l'équipe de louange, merci à l'équipe de ménage, merci à l'équipe d'accueil, à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce culte. Soyez bénis derrière vos écrans, on vous souhaite vraiment une excellente semaine. Si vous avez besoin de revoir le message, n'hésitez pas, reprenez le site, cliquez sur « Message » et vous pourrez réentendre ce message comme vous pourrez réentendre d'autres messages. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller vers le site. Vous souhaitez nous soutenir, pas de souci, vous pouvez cliquer, vous laisser conduire et vous pourrez ainsi continuer à nous soutenir et à persévérer dans les dons, dans l'amour, dans la prière et tout ce qui vous a été rappelé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine à chacun et à chacune.